Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'estival du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 juillet. On commence une nouvelle semaine et donc aussi évidemment une nouvelle semaine d'émission. Émission, vous le savez, estivale donc un peu plus courte que d'habitude, mais toujours avec un focus sur la Mayenne, sur ses initiatives, ses animations, des portraits aussi de ceux et celles qui la font bouger. Et puis chaque lundi, vous le savez peut-être si vous nous écoutez depuis début juillet, on retrouve Christophe qui raconte qui raconte, puisqu'on l'écoute très attentivement chaque lundi, l'histoire d'un lieu, d'une commune de la Mayenne, et après la rivière la Mayenne en tant que telle, la ville de Château-Gontier, cap sur le sud-ouest du département. Bonjour Christophe.
Bonjour. Aujourd'hui, filons dans le sud-ouest du département, en 1843, dans les ardoisières de Renazy. Alors, une ardoisière, c'est un gisement d'ardoise. Il se trouve que le sous-sol du département du Maine-et-Loire et dans son prolongement, celui du sud-ouest de la Mayenne, est traversé par des strates d'ardoise, ce qu'on appelle des veines ardoisières. Depuis le Moyen-Âge, les hommes cherchent donc à extraire des blocs d'ardoise qu'ils fendent ensuite en surface, en feuillets, pour arriver à l'ardoise dont on se sert pour les couvertures de bâtiments. Un registre des dépenses de construction du château de Laval signale ainsi, en 1456, l'achat d'ardoises provenant d'un gisement appartenant à l'abbaye de la Roe, justement située dans le sud-ouest du département. Cependant, le bassin ardoisier autour de Renazé est à l'écart des grands axes de communication et, contrairement au gisement du Maine-et-Loire, son exploitation reste relativement limitée jusqu'au début du XIXe siècle. Tout s'accélère à partir des années 1830. L'extraction ardoisière s'industrialise. Jusqu'alors, l'exploitation se faisait principalement à ciel ouvert. Désormais, des machines à vapeur actionnent des pompes pour aspirer l'eau souterraine qui inonde les galeries. Elles permettent aussi de faire descendre plus facilement les hommes dans la mine et de faire remonter le matériau extrait. L'extraction ardoisière intéresse donc de plus en plus les investisseurs. C'est ainsi qu'en 1843, ouvre un tout nouveau site ardoisier à Laubinière, tout près du bourg de Renazé, grâce au financement d'un banquier. D'autres investisseurs arrivent à la même époque, rachètent progressivement de grands terrains dont le sous-sol est traversé par la veine ardoisière locale. Les puits se multiplient, la production aussi. 26 millions d'ardoises produites sur le bassin de Renazé en 1857, près de 40 millions la décennie suivante. L'âge d'or des ardoisières de Renazé est la période qui va des années 1870 à la Première Guerre mondiale. À cette époque, on atteint les 90 millions d'ardoises produites par an et plus de 1500 ouvriers travaillent sur le bassin. Le bourg de Renazé connaît un boom démographique. 958 habitants en 1831, plus de 3500 en 1901. Plus de 250 maisons ouvrières sortent de terre pour accueillir cette nouvelle population. Renazé et les communes limitrophes deviennent un pôle économique majeur du département. Le syndicalisme s'y développe. Le monde associatif y est très actif, s'appuyant sur une population jeune et nombreuse. Mais, sitôt passée la Première Guerre mondiale, le secteur ardoisier local décroît. Épuisement des gisements anciens, difficulté à trouver de nouveaux sites, concurrence nationale voire internationale, mais aussi et surtout refus des propriétaires à investir. La production décroît autant que le nombre d'ouvriers. Dans les années 1930, le bassin ne produit plus que 50 millions d'ardoises par an et n'emploie plus que 800 ouvriers, soit deux fois moins qu'à l'âge d'or. La dernière ardoisière de Renazé ferme le 1er janvier 1976. Depuis, il existe à Renazé un musée de l'ardoise où il est possible tout l'été de découvrir ce riche passé industriel local. À bientôt pour une prochaine balade historique en Mayenne.
Merci beaucoup Christophe, à lundi prochain pour une nouvelle chronique historique et pourquoi pas une nouvelle idée de balade pendant ses vacances. Puisqu'on quitte à présent les sous-sols de la mine pour les airs, on embarque avec les bénévoles de l'aéroclub de la Mayenne cette semaine grâce à notre feuilleton consacré à l'une des plus vieilles associations mayennaises qui n'aura plus de secret pour vous. Premier épisode de la série aujourd'hui avec un coup d'œil dans le rétro justement. On se replonge en juin 1921, mois de création de l'aéroclub. Et au micro, on écoute son président actuel, Sébastien Normand.
Il est à l'initiative d'anciens pilotes de chasse de la Première Guerre mondiale, avec son initiateur Joseph Bouessé et son équipe qui ont déposé les statuts en juin 2021, dans le but de promouvoir l'aviation à l'époque, qui était au balbutiement, Et bah, eux, ça leur permettait aussi de pouvoir continuer leur entraînement suite à la guerre, à la première guerre, où ils étaient obligés de s'entraîner pour garder leur qualification. Et donc, ils allaient jusqu'à Angers pour pouvoir s'entraîner à voler, toujours, avoir toujours le maintien opérationnel, on va dire. Et donc, bah, il manquait une infrastructure de ce type en Mayenne, et ils sont à l'initiative du premier rassemblement de pilotes en Mayenne, donc l'Aéroclub. Et ensuite, ils ont travaillé pour obtenir un terrain d'aviation. Alors, le tout premier terrain d'aviation, ça a été très compliqué de l'avoir. Il est venu 7 à 8 ans après la création de l'aéroclub. À l'époque, Foch traitait un peu les aviateurs de rois du cirque, on va dire. Donc, lui, il voyait plus une opportunité pour certains de se mettre en avant plutôt qu'une réelle utilité dans le domaine militaire. Et donc, bah, les gens de l'époque, notamment les élus de la municipalité de l'époque, donc c'était André Pinson, et n'avaient pas forcément la vision qu'avait Joseph Bouessé. Ils étaient plus côté Foch et ils ne voyaient pas bien l'utilité d'un terrain d'aviation sur le territoire. Et il a fallu que ce soit le ministre en personne de l'aviation de l'époque qui envoie un courrier au préfet qui oblige la municipalité à faire un terrain. Et le tout premier terrain, comme on était dans du sport, eh ben, ils ont trouvé l'idée de le mettre sur le terrain d'Hippodrome de Laval, le stade d'athlétisme à côté du stade Francis Levasseur. Et il a fallu attendre 1937 pour avoir un vrai terrain d'aviation sur le terrain de Beausoleil où on est aujourd'hui. Tout naturellement, l'aéroclub a pris place sur le terrain. Et donc, depuis 1937, on occupe le terrain et on est à l'initiative du terrain de Laval, qui est maintenant Laval en tram. Et après, il y a eu l'occupation allemande, donc du coup, les avions ont été réquisitionnés. Il n'y a plus d'activité hormis l'aéromodélisme. Et puis, bah, après, c'est les Allemands qui ont pris place. Et l'aéroclub a redémarré à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. L'aéroclub participait à l'organisation de fêtes aériennes qui se faisaient dans les villages environnants en Mayenne. Et c'était le tout début pour montrer l'aviation spectacle. Il y a eu quelques périodes charnières, mais l'après-guerre où il a fallu redémarrer toute l'activité. Donc à l'époque, l'État versait des aides pour former des pilotes dans les aéroclubs. Donc il y en a beaucoup qui ont profité de cet élan-là, qui ont passé des brevets autofinancés par l'État. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout ça. L'aviation fait partie du paysage et du territoire, puisque l'aéroport amène aussi un certain nombre de possibilités pour les entreprises locales.
Deuxième épisode demain qui sera consacré au tout premier diplôme pour devenir pilote et pourquoi pas créer des vocations. Si vous êtes intéressé, ne le manquez pas, ce sera demain évidemment. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve donc pour l'estival du local demain à 7h30 pour les plus matinaux et à 12h15, toujours disponible en podcast. Je vous souhaite une très belle journée.